Cascodeurs Podcast, épisode 216. L'épisode où on a perdu le compte. Enregistré le 11 septembre 2019. Soutenez les Cascodeurs sur Patreon, patreon.com/lescascodeurs.
Bonjour et bienvenue à l'épisode 217 des Cascodeurs. Alors, dans 217, il y a trois nombres premiers. Enfin, il y en a deux puisque le 1, c'est pas un nombre premier. Bon, voilà, c'était l'intro.
Sinon, il y a deux nombres premiers, il y a 17.
Oui. Antonio.
Voilà, l'épisode est fini.
Voilà, l'épisode est... Antonio au micro avec Emmanuel et Audrey. Bonjour Emmanuel, bonjour Audrey.
Bonjour tout le monde.
Alors, un épisode news. Donc, on vous propose des tas de news sur notre métier, nos technos, à commencer par Java 13. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Java 8, c'était il y a fort longtemps. Et depuis, il y a eu Java 9, 10, 11, 12 et Java 13 qui sort incessamment sous peu.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés dans
Alors,
Java 13 ?
Il y en a plein, on va faire ça en deux morceaux. La première, c'est un article que j'ai vu de fin juillet, mais en fait, les choses arrivent quand même. Et donc, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, en fait, la release de Java 13 de mémoire, parce que maintenant, c'est très calé,
c'est tous les 6 mois,
ouais. Sortent les choses, voilà. Et puis ça tombe bien, c'est parce que ça tombe autour de CodeOne, qui est la grosse grand-messe Oracle. Et donc, le premier truc, c'est qu'ils ont amélioré le garbage collector ZGC. Alors, c'est pas forcément celui que vous utilisez de base, parce que maintenant c'est G1 qui est utilisé de base, et puis c'est pas un des historiques. mais maintenant, il peut libérer de la mémoire. Donc ça, c'est toujours un point, c'est que la JVM, elle prend la mémoire et puis après elle enlève les objets, mais ça veut pas dire qu'elle libère la mémoire, qu'elle la redonne au système d'exploitation. Donc là, c'est ce qu'ils font. Alors là, c'est pas écrit là-dedans de mémoire, mais en tout cas, je sais pour l'avoir lu sur Go que libérer de la mémoire, ça veut pas dire que le système d'exploitation va la libérer tout de suite. Ça dépend un peu s'ils font du caching aussi. Linux, par exemple, a des choses autour de ça. Ils ont réimplémenté l'API de socket avec une réimplémentation moderne. Donc ça nous on l'utilise pas au quotidien, mais il y a des frameworks évidemment qui l'utilisent et que vous utilisez.
Et il faut préciser que l'API socket, elle datait de la 1.0 du JDK. Moi, je trouve ça magnifique.
Ouais, mais c'était un des trucs les plus novateur aussi, on avait les threads assez vite, on avait les sockets, qui est un truc qui était vraiment compliqué à faire dans les autres, pas langage, mais dans les autres SDK.
Mais je trouve ça fantastique, tu vois, de se dire que ce truc, c'est là depuis la 1.0 et ça avait pas bougé, etc. Enfin, c'est assez impressionnant quand même.
Ouais, surtout quand tu dis, ils ont dû corriger 2-3 bugs de sécurité.
Oui, enfin, voilà, mais je veux dire, en dehors de ça, au niveau de la conception, c'était déjà là, quoi.
Ouais. Ensuite, alors, ils avaient amené les expressions switch et puis après, ils les avaient enlevées parce que les gens étaient... Enfin, il y avait eu du retour, en fait. Vous vous rappelez, c'est des versions à non LTS, là. Donc, c'est des versions sur lesquelles on peut essayer des choses et voir. Et puis, au pire, on peut les retirer pour si vraiment ça pose problème. Je pense qu'elles étaient en prévisualisation, hein, donc voilà. Et donc là, switch revient, in anger, comme on dit. Le truc le plus visible que vous allez voir, c'est qu'ils ont changé en fait, on pouvait mettre break. Ils avaient réutilisé le mot-clé break pour dire, dans le cas du switch, je sors du switch et maintenant c'est yield, qui permet d'éviter un peu la confusion. Vous encourage à aller regarder la nouvelle syntaxe des switch qui est intéressant et je crois qu'ils préparent ça pour faire l'intégration avec Loom, un de ces quatre, c'est ça ou je me suis trompé? Non, pour
c'est pour
le pattern matching.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qui va nous permettre dans un futur proche d'avoir le pattern matching.
Voilà. On en reparlera un petit peu.
Enfin, c'est Loom, c'est avec les sockets,
oui,
en fait.
On en reparlera un petit peu après dans ça, l'épisode. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai confondu. Et puis, alors, un truc, waouh, je l'avais pas vu venir celui-là, le bloc de texte multiligne. Donc, vous savez que
on
c'est
l'attendait,
un
celui-là.
Peu de... Ah ouais, grave. Et du coup, avec trois ouvertures de guillemets. Donc, ça ouvre une chaîne qui va s'étaler sur plusieurs lignes. Et donc, vous passez à la ligne et là, vous commencez à écrire votre chaîne de caractères. Et puis, à chaque fois que vous passez à la ligne, bah, c'est l'équivalent d'un anti-slash N pour dire je passe à la ligne. Donc, ça, c'est cool. C'est beaucoup plus simple en termes de visibilité de votre code. Et puis, ils ont fait qu'on appelle ça les espaces jusqu'au début des trois guillemets en fait ne sont pas pris en compte, ce qui fait qu'on peut indenter comme on veut tant qu'on aligne en fait le début de notre chaîne de caractères avec le début de nos trois guillemets, ça se passe bien. Donc là pareil, il y a eu un retour je crois de la communauté qui ont donné ce feedback là, ça va simplifier un peu le code qui joue avec des chaînes de caractères, donc ça c'est cool. Voilà, et puis donc, ça c'est une partie Java 13, il y a une autre partie de Java 13 dont José Pomard va nous parler.
Salut les casse-codeurs, c'est José à l'appareil, pour vous parler un petit peu de cette actualité Java du mois d'août 2019, qui a été assez riche. Apparemment, pendant que certains prennent des vacances, il y en a qui travaillent assez dur du côté de la Californie, ce qui est peut-être un petit peu inattendu, ou peut-être que c'est pas si inattendu que ça, parce que c'est vrai que c'est bientôt Oracle CodeOne, et que régulièrement dans cette conférence, il y a des annonces pour Java, pour l'OpenJDK, et pour ce genre de choses. En fait, on a 4 JEP assez importantes, qui ont été mises à jour pendant ce mois d'août, et dont je voudrais vous parler pendant quelques minutes. La première, c'est la 357, pour la petite histoire, et qui consiste à faire migrer le repository de l'OpenJDK de Mercurial vers Git. Alors, c'est pas un projet qui a été décidé si récemment que ça, ça fait un moment que c'est un petit peu dans les cartons, et en fait, l'objectif, c'est vraiment de prendre l'ensemble du code source de l'OpenJDK et de mettre tout ça sous Git. Les motivations qui sont données, en fait, il y en a essentiellement 3. La première, c'est la taille de toutes les métadonnées du système de contrôle de version, qui est plus efficace dans Git que dans Mercurial, et puis c'est l'outillage et les différentes solutions d'hébergement qui peuvent exister dans l'environnement Git. Et en fait, on a déjà commencé à voir des effets de cette JEP, puisque quelques projets, comme le projet Loom, sont en fait déjà sur GitHub, ils sont maintenant hébergés sur GitHub, en plus d'être hébergés sur le site de l'OpenJDK. Alors, est-ce que ça va signifier la fermeture du repository Mercurial de l'OpenJDK? Il y a assez peu de chances, parce qu'en fait, il y a tout un tas de liens, notamment dans la base de bugs de l'OpenJDK, qui pointe vers des commits Mercurial de ce repository et qu'il va falloir maintenir au fil du temps. Donc rien que pour ça, il y a peu de chances que le repository Mercurial ferme. La deuxième JEP dont je voudrais vous parler, c'est celle qui suit, la JEP 358, qui date du 22 août dernier, et qui en fait va consister à avoir une meilleure gestion des nuls pointeurs exceptions. C'est un petit peu amusant d'avoir ça, parce que les nuls pointeurs exceptions, c'est vraiment un très très vieux truc de Java, on a ça depuis que Java existe, hein. Bien évidemment. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, quand j'ai une ligne sur laquelle je sais qu'une nulle pointeur exception a été générée, je vais avoir un peu plus d'informations pour savoir quel élément de cette ligne a effectivement généré cette nulle pointeur exception. Si j'ai plusieurs suites de pointeurs, A, point B, point C, point D, en fait, aujourd'hui, je sais pas quel objet est nul. Est-ce que c'est A? Est-ce que c'est A, point B? Est-ce que c'est A, point B, point C? Et dans le futur, on va avoir cette information. Les deux dernières JEP, qui sont les 359 et les 360, portent sur le projet Amber et concernent deux éléments du projet Amber, les records et les sealed types. Les records, c'est ce nouveau modèle de bin qu'on va avoir dans le futur. Un record, c'est un peu comme une classe, sauf que ça s'appelle un record. C'est quelque chose qui est immutable et qui est fait pour transporter des valeurs. L'exemple qui est pris, c'est un record qui s'appelle point, qui est construit sur en fait deux valeurs x et y, qui sont des valeurs entières, on aura juste besoin de déclarer ça au niveau du code source, et le compilateur va générer tout seul comme un grand le constructeur equals hashcode toString des getters, alors qu'ils ne sont pas exactement des getters, parce qu'ils vont s'appeler juste x et y plutôt que getx et gety. Ce record sera immutable, et on pourra malgré tout rajouter du code dedans, notamment si on veut faire de la validation, par exemple, dans le constructeur. Ce record, c'est un élément indispensable pour avoir le pattern matching en Java. Le pattern matching, c'est le but ultime de Amber. Pour l'instant, on l'a pas, mais le record, c'est une des briques de construction de ce pattern matching. Et puis enfin, la dernière JEP, qui concerne les seal types, c'est également une brique de construction du pattern matching, et elle a été mise à jour quasiment en même temps que la JEP sur les records. Un seal type, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est en fait un type, donc ça peut être une interface, une classe ou une classe abstraite, qui va définir les types qui peuvent l'étendre. Donc par exemple, une interface scellée, ça va être une interface qu'on va déclarer avec sealed interface, donc sealed c'est un nouveau mot-clé du langage, et puis dedans on va dire que les seules implémentations autorisées de cette interface, c'est A, B et C. Si par exemple j'ai une interface qui s'appelle shape, et que je veux dire que bah, les trois classes qui peuvent implémenter cette interface, c'est circle, square et triangle, je vais pouvoir l'écrire de cette façon-là. C'est quelque chose qui va être vérifié à la fois à la compilation et à l'exécution. Donc pas question d'aller charger une classe ou de créer une classe avec un agent ou d'aller bidouiller une classe par réflexion pour qu'elle puisse implémenter cette interface au runtime. Ce seal type, c'est quelque chose qui sera complètement fermé et vérifié, y compris à l'exécution. Ça permettra de pouvoir faire des switches exhaustifs sans clause default, parce que si je fais un switch sur un type que je sais que c'est un type scellé, par exemple, j'aurais pas besoin d'avoir une clause default, étant donné que je sais que j'aurais parcouru tous les types à l'intérieur de mon switch. C'est quelque chose qui va pouvoir être ajouté au langage. Seal types et record, ce sont deux briques de construction du pattern matching, donc ça veut dire que ce fameux pattern matching, on va finir par l'avoir. Merci à tous pour votre attention.
Et puis il y a le retour sur, qu'on appelle ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de briques qui arrivent pour le pattern matching. John en a parlé, nous on a parlé de l'expression switch, pourquoi elle avait changé, voilà. Donc ça va arriver, je sais pas si c'est déjà prévu d'arriver dans une version spécifique, mais
je crois qu'on n'a pas encore la version visée, mais bon, ça devient bon.
Ouais, exactement.
Alors, après les nouveautés du langage Java, on a aussi une version de Go là qui vient de sortir, la 1.13, avec des tas de trucs. Je vous avouerai que moi, je ne suis plus Go depuis un petit bout de temps. C'est quoi les nouveautés
de Go? Alors j'ai essayé de faire un résumé, donc évidemment, c'est plutôt pour des gens qui sont pas au cœur de Go, parce qu'ils vont nous rire au nez, mais pour les gens qui veulent voir les langages à la périphérie autour de Java. Donc ils ont... alors ça, c'est un truc qui serait cool, en fait, dans ma veine, en tout cas avec ma veine centrale, c'est de l'authentification des modules. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger les modules un peu à la Maven, et puis il y a vérification des checksums. Les checksums qui, elles, sont maintenues ailleurs par Google pour chaque module. Ce qui fait que, on a une garantie que le téléchargement, il a pas foiré. Ce qui arrive souvent avec Maven, non pas quand on utilise Maven directement, mais quand on utilise la librairie qui est censée être AESH, là où je sais plus le nom qui leur donne, là, Ether, plutôt. Ça marche jamais, c'est pas très stable ce truc-là, donc ça, les checksums seraient assez cool aussi en Java là-dessus. Ils ont uniformisé les littéraux numériques, ce qui est un truc qu'on... Il y a eu une amélioration autour des numériques aussi en Java. Et il y a un truc dans Go qu'on n'a pas en Java, c'est qu'ils ont un outil de formatage qui dit « le langage Go, c'est comme ça ». Alors, je sais plus si c'est des tables ou des espaces, vos chiffres, vous les mettez comme ça. Et en fait, c'est le compilateur, enfin, via cet outil, qui vous le modifie et qui force, en fait, la structure de votre code. Comme ça, il n'y a pas de débat de guerre. Il y a déjà quelqu'un qui a décidé pour vous. Donc ça, c'est pas mal. J'avoue que nous, sur Quarkus, on l'a activé, en fait. Du coup, on a un truc qui va, au moment où vous lancez vos tests, va aller changer les morceaux de code que vous avez modifiés et qui sont pas compatible avec la norme qui a été définie, et puis du coup le code, il est forcément formaté comme c'est prévu, donc ça, c'est pas mal. Il supporte pas les plateformes jusqu'à la fin des temps, donc là le support de macOS 10.10 n'est plus là, FreeBSD 1.11 et en dessous n'est plus supporté. Voilà, donc il laisse derrière les plateformes plus ou moins vieilles. ils ont les. En fait, je crois que leurs modules, ils sont. On peut upgrader avec la sémantique de version, le semantic versioning. Et donc là, ils ont un moyen de désactiver ça, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, ils ont amélioré la gestion de ça. Ils ont améliorer leur code de escape analysis, c'est-à-dire de déterminer si des bouts de code sont utilisés ou pas utilisés, ce qui fait qu'il y a des bouts de code incorrects qui se trouvent qui marchaient avec le compilateur d'avant qui vont pas forcément marcher, mais ça reste du code incorrect. En tout cas, faites attention quand vous faites votre migration parce que vous aurez peut-être des petits impacts. Voilà, support de ARM 8.1, donc notamment certaines nouvelles comment on appelle ça, des pas des primitives, mais des instructions. Voilà, j'y arrive. Le retour de la mémoire, qui est désallouée, les fait plus agressivement. Avant, il gardait les pages mémoire, qui étaient vides pendant 5 minutes au cas où elles sont réutilisées. Là, ils sont plus agressifs là-dessus. On voit ce mouvement-là parce que, dans les containers où on veut de la densité, on veut libérer le plus vite possible pour que le système d'orchestration, que ça soit Kubernetes ou autre, puisse optimiser tout ça. TLS 1.3 par défaut. Et puis, un truc qui s'appelle Error Wrapping, qui, alors, de ma compréhension, ressemble un peu à notre capacité de nester les exceptions, mais en tout cas pour les erreurs, et puis du coup, avoir des API pour ressortir ça. Voilà, c'était Go 1.13 qui est sorti.
Beaucoup de nouveautés. Alors, une nouveauté aussi dans le monde Python. Donc, pour ceux qui ont suivi l'épisode Python 2, qui date du début des années 2000 quand même. Et puis après, le Python 3 qui est arrivé quelques années après. Puis il y a eu pendant longtemps Python 2 et Python 3 d'un côté et de l'autre. Et ben, ça y est, c'est terminé Python 2.
C'est ça.
Ouais. En janvier, là, ils arrêtent tout, mais c'est terrible.
Ah bah c'est terrible, oui et non. Hein. Ils expliquent bien pourquoi ils le font. C'est pour pouvoir travailler correctement sur la version 3, justement, puisque le fait de maintenir les deux, bien évidemment, ça avait un coût pour eux. Donc, à partir du 1er janvier 2020, même si il y a des failles de sécu que vous relevez, il y aura plus de support et vous pourrez difficilement obtenir de l'aide. Donc, par contre, il y a un guide de passage de la 2 vers la 3 qui est toujours disponible. Le lien a été remis dans l'article. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer dessus parce que là, il va falloir migrer vite.
Et voilà, il faut migrer.
En fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de le garder trop longtemps.
Oui, je pense, parce que effectivement, Python 2, c'est 2000, hein, donc c'est énorme de se dire, tu fais cohabiter ces deux versions pendant 20 ans, c'est compliqué quand même.
Ouais, mais du coup, il y a un vrai chiasme, et donc il y a des frameworks qui marchent en 2, et puis selon ta distribution Linux, c'est la 2 qui est en premier, donc faut installer la 3 séparée, et du coup, c'est vraiment la merde pour le coup.
Ouais.
C'est vrai que l'avantage de Java avec sa compatibilité depuis l'histoire des temps, plus ou moins, nous a protégé de ce genre de choses. Mais c'est les choix difficiles. Ouais.
Alors, dans la partie langage, il y a un petit truc là qui s'appelle configure unify et donc execute CUE. Alors, je sais pas comment ça se dit, CUE peut-être. Donc pour celles et ceux qui en ont marre de faire du YAML et ça marche pas, et puis du JSON et ça marche pas, et ben c'est un langage qui permet de valider tous vos fichiers texte en fait. Vous écrivez du YAML, du JSON, de l'XML, et c'est un langage qui va pouvoir contraindre et valider les données de votre fichier texte. Alors
Ouais, moi j'étais pas convaincu. Hein.
Ouais, pareil.
Déjà,
la syntaxe elle est un peu chelou.
Oui, mais alors je peux vaguement voir l'intérêt quand même parce que alors leur objectif premier, ça va être de réduire le boilerplate. C'est vraiment le truc qu'ils mettent en avant très rapidement ils expliquent justement que même si tu as très peu de fichiers de configuration, justement le fait de dupliquer le code, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir des erreurs introduites. Et puis que quand ton projet grossit et le nombre de fichiers de conf que tu as en parallèle grossit, alors là évidemment les risques d'erreurs se multiplient. Donc ils ont d'ailleurs un petit outil qui permet d'aider pour faire de la factorisation, qui va vous permettre d'identifier justement les boucles qui sont dupliquées. Et en fait, honnêtement, moi, je voyais bien l'intérêt justement sur... chez Sagi, on faisait du Ansible au départ, et après on est passé sur Kubernetes, et on avait énormément de fichiers de conf, il y avait plusieurs équipes qui travaillaient dessus. On est sur des formats de fichiers où c'est pas toujours évident de voir si tu t'es planté sur ton indentation, etc.
Et tu vas
le payer cher. Enfin, en fait, la boucle de feedback est longue et donc ça peut être assez casse-pied. Et puis donc il y avait ce côté, tu vois, justement, de dire, bah ça te permet d'harmoniser tes configurations quand t'es à plusieurs équipes. Ça te permet de vérifier qu'il y a pas d'erreur. Ça permet aussi de mettre des valeurs par défaut. Ça, je trouvais ça intéressant parce que tu peux très bien imaginer que, je sais pas, t'es dans une config pour des containers ou autre et tu veux limiter l'espace, il y a une taille minimum, mais tu veux pas non plus que le container il explose ce qu'il utilise. Bah tu peux spécifier ça, donc ça peut être intéressant quand même, en fait, je pense. Et en plus, le langage, il a été prévu pour l'automatisation, donc il est facile à parser, à scanner, il y a des restrictions sur les imports, etc. Je trouvais l'idée intéressante, moi, quand même.
Ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'il parle de schéma. Tu vois, il parle de schéma, donc tu vois, XML, schéma, ça te rappelle des trucs. Il parlait aussi de JSON et de schéma. Enfin, c'est sûr que quand on a des fichiers texte, c'est toujours un peu le bazar. Donc, why not? Voilà, ça s'appelle CUE. Vous aurez le lien dans les show notes. Alors, on passe aux librairies. Librairie du monde Java qu'on aime bien, c'est Spring. Donc Spring, la version 5.2 RC2 est dispo, et puis elle va de pair aussi avec Spring Boot 2.20 M6. Donc tout ça arrive bientôt. Je sais pas si vous avez des choses à dire sur ces prochaines versions.
Non, ça a l'air de la... Alors j'ai oublié ce qu'ils avaient dans la 5.2 de prévu, mais en tout cas là, on est vraiment en phase de correction des bugs pour préparer la GA, en fait.
Ouais, qui devrait arriver dans 2 semaines maintenant, donc ça va venir vite.
Stay tuned. Alors, Vertex 4.
Ouais.
X4 Milestone 2,
voilà.
Il se passe quoi alors?
Il se passe plein de choses. Alors la première partie, c'est... ce qu'ils appellent futurisation, c'est-à-dire que le modèle de callback asynchrone de la 3.x, il va être étendu pour aller sur un modèle hybride avec des futurs. Et la première milestone de la 4, justement, elle couvrait Vertex Core, et là, cette deuxième milestone, elle vient l'étendre au module hôte, web, MQTT, Cassandra, Redis, Kafka et AMQP. Donc ça avance bien.
Ouais, juste pour clarifier, la futurisation, ça, aujourd'hui, il y a un callback dans Vertex 3, donc il y a un des paramètres de votre méthode qui est un handler avec son callback. Et dans la version 4, que vous pouvez choisir comme modèle alternatif optionnel, c'est effectivement la valeur de retour qui est un futur de quelque chose, qui correspond en fait à votre handler. Voilà.
Il y a la partie, ce qui s'appelle tracing, c'est-à-dire que comme la plupart des librairies justement de tracing, elles se basent sur le storage de thread local, ça fonctionne bien pour des applications qui fonctionnent de manière bloquante traditionnelle, mais ça marche moins bien quand tu es sur des modules asynchrones. Et donc là, en fait, ce que fait Vertex 4, c'est qu'ils vont prendre le flow de requêtes et ils l'ont rendu intégrable justement avec des outils de tracing comme Zipkin ou OpenTracing. Il y a également une simplification côté Groovy pour supprimer de la génération de code qui n'était pas nécessaire, et le client Redis qui est déprécié depuis la 3.7, qui là est remplacé par le nouveau. Et puis il y a des composants qui sont en fin de vie, ça fait déjà un moment en fait qu'on a les clients qui les remplacent et qui là vont être supprimés. Donc il y a le cas du client asynchrone MySQL Postgre qui lui est remplacé par le client SQL, et puis le bridge AMQP qui a déjà été remplacé par le client AMQP. Donc voilà, ceux-là disparaissent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie des fonctionnalités, alors ce n'est pas précisé là dans le lien qu'on vous a mis, mais je pense que ça se trouve ailleurs. Il y a une partie des fonctionnalités qui vont être backportées dans la 3. Donc pas toutes, hein, mais voilà, vous retrouverez une partie de ces fonctionnalités-là.
Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est donc vous, un peu comme Lucene d'ailleurs, vous allez mettre à jour à la dernière version 3. Quelque chose, vous allez pouvoir migrer vers les nouvelles approches et ne plus utiliser les choses qui ont été enlevées le plus possible. Comme ça, quand vous passez à la 4, c'est transparent. Sauf que la 4 aura littéralement enlevé les choses qu'ils ont décidé de déprécier.
C'est pas mal comme approche, je trouve, hein, quand tu peux te permettre de le faire.
Ouais, c'est difficile, ça, contrairement
ouais, j'imagine bien, mais bon. Par contre, je trouve ça assez, assez chouette pour justement les utilisateurs, pour leur permettre une migration en douceur.
Punaise, Python 2, Python 3, Vertex 3, Vertex 4, voilà, migrer, tout le temps. Alors, alors, dans la partie middleware, ben, super blog d'Octo, in French, sur comment sécuriser une API REST. L'article vient de sortir, hein, donc comme quoi c'est toujours un challenge de sécuriser une API. Et le blog est pas mal fichu, il est très très long, très très riche, ça parle de tout, Auth2, OpenID Connect, avec des petits diagrammes et tout. Enfin, j'ai trouvé que le, j'ai pas tout lu parce qu'il est long, mais
il est très
j'ai
complet.
Trouvé très didactique.
Ouais, ça parle des fondamentaux.
Ouais.
C'est ça. Ça explique les fondamentaux. Ensuite, ça explique en concret comment OAuth 2 le fait. Et ensuite, OpenID Connect et qui est utilisé l'un par-dessus l'autre, etc., etc. Donc, et les fameuses API keys et à quoi ça sert. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que si on veut que notre API soit utilisable par tous, on met quand même une API key? Eh bien, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas tous gentils sur Terre. Et donc, ça nous permet de filtrer.
Ah bon, il paraît.
Et oui. Mm.
Et si vous voulez en savoir encore plus, il y a un autre blog, pas mal aussi, qui là se concentre plus sur OAuth 2. Donc voilà, pour la partie sécu et puis API, consultez ces deux liens-là qui sont vraiment pas mal. Et puis dans la partie middleware moins sécu, c'est Elastic Stack, donc la suite Elastic 7.3.0.
Ouais.
Alors est-ce que quelqu'un a suivi les nouveautés?
Ah bah moi forcément. La Elastic
Bah oui.
Girl.
On s'en doute.
Oui, alors en fait c'est donc pareil une grosse version qui amène énormément de choses. Le truc peut-être le plus bluffant je trouve dans cette version, c'est l'apparition des trames de données. En fait, ça va vous permettre de réorganiser vos données à la volée en créant des index dynamiques qui vont être centrés sur les entités. Donc dans l'article qu'on vous a mis, il prenait l'exemple de si on veut faire de la recherche par exemple d'adresses IP suspectes dans les logs du serveur, et ben on va pouvoir créer un index qui va être centré sur l'identité. On va se retrouver avec un document par adresse IP qui va effectuer le suivi de tous les indicateurs qui vous intéressent et on va pouvoir faire la recherche à la volée. Ils ont rajouté également la détection des anomalies dans SIEM. Alors, SIEM, c'est le module de gestion des événements et des informations de sécurité. On vous l'a présenté dans l'épisode de 214, je crois, si je me trompe pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité d'activer et d'exécuter un ensemble de tâches de machine learning qui sont vraiment dédiées à la détection des anomalies et qui ont été conçues pour déceler des comportements de cyberattaque spécifiques. Et bien entendu, vous avez la possibilité de créer des tâches personnalisées de détection des anomalies via l'application de machine learning. Il y a également Elastic Maps qui passe en disponibilité générale. C'était en bêta depuis la version 6.7. Et l'objectif de Maps, c'est de rendre l'exploration et la compréhension des données géospatiales plus intuitives et plus interactives. Donc c'est un outil qui vient se mettre dans Kibana, qui va vous permettre de visualiser justement vos données sur une carte. Et là, il y a des fonctionnalités nouvelles qui y arrivent en plus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir importer des formes, des couches dans vos cartes depuis des fichiers GeoJSON. Vous pouvez également créer des icônes personnalisées, visualiser le dernier emplacement connu, des choses comme ça. Donc le rendu est assez chouette. Je pense que c'est un très bel outil aussi, ça. Et puis Elasticsearch, évidemment, qui passe en 7.3.0, avec notamment l'introduction. Donc maintenant, on va avoir des nœuds maîtres voting only. C'est-à-dire que c'est des nœuds qui sont maîtres, mais qui ne peuvent que voter et ils ne peuvent pas être élus. Il y a aussi l'ajout de l'agrégation des termes rares. Alors ça, c'est particulièrement intéressant pour justement SIEM, cette partie gestion des événements et des informations de sécurité, parce que on va justement rechercher ce qui est rare et ce qui peut potentiellement relever d'une attaque. Il y a la mise à jour dynamique des synonymes et puis une nouvelle interface utilisateur pour la gestion des instantanés et de la restauration. Kibana gère maintenant Kerberos, la saisie semi-automatique et puis ce qu'ils appellent KQL pour le filtrage des agrégations. Bits, lui, est compatible avec de nouvelles sources de données, alors notamment Oracle, Amazon RDS, mais aussi, et ça c'est assez intéressant, les indicateurs Kubernetes, donc le kubeproxy, le kubescheduler, le kubecontrol manager, les choses comme ça. Et puis Logstash est désormais compatible JMS par défaut. Ça, c'est pratique aussi. Et puis Elastic Logs, une autre fonctionnalité très sympa, va permettre de mettre en surbrillance les mots-clés et de passer directement à certaines traces APM en fonction de leur identifiant, justement, trace.ai. Voilà pour l'essentiel, mais il y a encore plein de choses dedans. Mais si je mettais tout, après, je faisais tout l'épisode et les gars allaient râler. Donc, vous n'avez que l'essentiel.
On râle, stop.
Est-ce que tu sais à quoi ça sert le voting only là?
Non, j'ai pas trouvé pour le moment justement, mais je compte sur nos auditeurs. Je sais que nous avons Fabien et David qui vont pouvoir nous éclairer, comme ça on pourra vous donner des infos la prochaine fois. Et non, j'ai pas trouvé justement. Ça m'interpellait, mais voilà.
D'accord. Qui sait, un petit crowdcast.
Tout à fait. Ouais, mais quelle idée merveilleuse.
Et ouais. Mais oui. Mais ouais. Mais bon sang, mais c'est bien sûr.
Et puis, vu qu'on parle de Elastic, il y a Elastic avait en propriétaire des fonctionnalités de recherche, en fait, des extensions pour sécuriser votre Elastic. Oui, c'est ça, de sécurisation de votre truc Elastic. Entre temps, il n'y a pas si longtemps, ils ont donné le code. Alors, je sais pas si c'est en open source, mais en tout cas en open code de mémoire. Enfin, je me rappelle plus tous les détails, mais il y avait une boîte qui avait une solution alternative qui s'appelle SearchGuard, et le nom de la boîte j'ai oublié. Et donc ce qu'ont trouvé les ingénieurs d'Elastic, je pense, c'est que SearchGuard en fait faisait de la copie de leur code à eux, Elastic, alors que c'était du code proprio et pas de la partie open source de Elasticsearch. Donc procès, enfin ils ont déposé une plainte en Californie. SearchGuard dit mais non c'est pas vrai, Elastic il dit si c'est vrai et en plus on a des preuves. Donc Elastic en tout cas met en garde les utilisateurs de SearchGuard en disant vous utilisez du code qui fait de la violation de propriété intellectuelle, sans le savoir, mais c'est quand même le cas. Donc allez voir Elastic et les versions qui sont gratuite de sécurisation, puisque maintenant ça ne fait plus partie du bundle payant. Voilà. Enfin, si vous êtes utilisateur de SearchGuard et d'Elasticsearch, du coup, allez voir un petit peu avec un peu plus de détails. Hein, ça pourrait intéresser votre service juridique.
Allez, on passe à un blog assez marrant qui, en 2019, dit. Et si on avait notre propre serveur mail, donc je vous conseille l'article. C'est un mec qui dit comme tout le monde, vous n'avez pas de serveur mail, vous envoyez des mails par quelqu'un qui sait le faire parce qu'il faut gérer les spams, etc., etc. Et donc l'article, c'est en fait, c'est pas si dur que ça. Donc il vous met il faut vous gérer les spams, c'est très très dur, et puis il vous dit mais non, et puis après il vous dit ouais mais en fait il faut gérer les gros mails avec des attaches, et puis il dit mais non c'est facile. Donc le blog est assez marrant parce qu'il vous dit mais en fait pourquoi vous hostez pas votre propre serveur mail. Et ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est qu'après il y a plein de commentaires aussi par des sysadmins qui disent mais attends, t'as pas parlé de backup, c'est super compliqué les backups, etc. Enfin, c'est rigolo parce qu'on est en 2019 et puis en fait gérer des mails c'est très très dur et personne le fait. Enfin, je sais pas vous, mais souvent on délègue à des hosteurs de mails qui font le boulot, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'article, vous?
Moi, je suis bien trop feignasse pour me lancer là-dedans.
Eh ben, pas moi, parce qu'en fait, je vais rajouter un lien qui est comment monter son serveur email sécurisé en 2 heures, où il y a la liste des choses à faire, en gros. Alors, je sais plus si c'est spécifique à PostFix ou pas, ou si c'est plutôt la liste conceptuelle. Moi, au début, je m'étais dit, ah, super, il va expliquer un peu qu'en fait, c'est simple. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'il, On le voit bien dans les commentaires, c'est qu'en gros, il dit, bah non, mais si t'as la connaissance, c'est hyper facile. Et moi, tu dis, bah oui, mais c'est un peu le problème, Coco. Et parce qu'il dit, c'est pas dur au sens mathématiquement dur, quoi. C'est juste que c'est long et qu'il faut aller lire à droite, à gauche les docs et recouper les configurations ensemble. Donc moi, je l'ai fait parce que j'ai un serveur sur le côté qui envoie, reçoit des emails. En plus, je voulais que ça soit reproductible, donc j'ai fait un script Ansible. Et donc, assez vite, en fait, alors t'es jamais trop 100% sûr que ton truc, il est bien... bien être, bien protégé, et puis bah ouais, c'est du boulot. Quand le système d'exploitation, il y a une faille de sécurité, il faut aussi le mettre à jour. Donc c'est du boulot, en fait, ce choix de liberté pour son serveur email. Après, je suis assez d'accord avec lui que au début, voilà, les emails, ils passent pas forcément super bien avec Gmail, mais au bout d'un moment, votre serveur est reconnu comme étant pas un gros spammer qui pue, et du coup ça se passe plutôt bien si vous avez mis en place les quelques trucs dont il parle. Voilà, mais c'est du taf, et c'est de la maintenance aussi, et puis des fois ça tombe en panne et puis vous avez vraiment pas le temps ou pas envie de passer du temps là-dessus, donc voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'un email, un serveur email, quand il tombe, de toute façon les autres serveurs vont renvoyer l'email pendant en gros 48 heures, donc vous avez un petit peu de temps pour le remonter.
Donc, bon, et puis ça, le disclaimer, voilà. Au tout début de l'article dit que quand même c'est un article pour sysadmin, hein. Donc c'est vrai que, enfin, moi comme développeur, j'irais pas me lancer là-dedans. Il y a qu'Emmanuel Bernard pour faire ça, ou Chuck Norris.
Mais n'est-ce pas la même personne?
Non, mais Arnaud, je suis sûr.
Oh
ou Nono le robot, je suis sûr qu'il fait ça aussi.
C'est pas impossible.
Alors, un article assez marrant, que moi j'ai trouvé marrant, c'est pourquoi développer sur Kubernetes pue. Alors, en anglais c'est suck, hein, désolé. Et bah, c'est vrai que c'est toujours marrant d'avoir des articles qui vont un peu à contre-courant. On se lance tous dans maintenant, on développe tous avec du Docker, avec du Kubernetes, sinon ça marche pas. Et l'article est, il vous dit voilà pourquoi ça pue de développer avec Kubernetes. Il faut connaître des tas de technos, les mini cubes, les machins, les bidules. On a toujours des problèmes avec le réseau, les traces, etc. Et c'est vrai que pour les vieux de la vieille comme moi qui ont commencé le dev il y a fort longtemps. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez commencé le dev il y a fort longtemps?
Moins longtemps que toi.
Non.
Oh, elle était facile, celle-là. Elle était facile, je t'ai tendu le bâton.
Bah oui, c'est pour ça, je l'ai attrapé. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse?
Non, mais ce qu'il montre, c'est qu'effectivement, il dit, il y a des solutions. Alors, si vous prenez ça, ça résout ce problème. Si vous prenez ça, ça résout ce problème. Mais il n'y a pas vraiment encore de solution unifiée au niveau de Kubernetes pour dire je le fais tourner et ça marche bien. Il y a des solutions très dégradées qui vous permettent d'être très légère sur votre machine et donc c'est super, mais dès que vous allez vouloir débugger, voilà, la partie réseau, le log, faire semblant de simuler un Istio, ben vous aurez pas ça. Si vous faites le truc qui a tout, en fait, en gros, qui simule un Kubernetes ou un OpenShift en entier, il vous fout 32 gigs de RAM, en gros, assez vite. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très satisfaisant. Et quelqu'un me répondait, on avait tout résolu dans l'app server et maintenant on y revient. Et au début, j'étais pas d'accord avec ce tweet, mais je comprends d'où il vient. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Antonio, on avait l'app server qui faisait trop de choses par rapport à ce qu'on voulait, on le trouvait trop gros ou je sais pas quoi, mais au moins, tout était bien réglé, on avait résolu les problèmes majeurs de d'utilisabilité, de développement dedans, et là en fait on les redécouvre avec un univers qui s'appelle Kubernetes et qui reprend une partie de ce que faisaient des app servers.
Faire et défaire, c'est travailler. Alors, si on passait
en parlant à Pénélope.
Bravo.
C'était la rubrique culture de
cette culture, épisode. Actualité. Alors, pour la partie web, bah, quelques nouveautés sur la partie web. Alors, j'ai pas du tout suivi, là. Il y a apparemment Firefox qui va bloquer les cookies, c'est ça, par défaut?
Oui.
Bah, j'avais pas suivi cette news.
En fait, alors, c'est des fonctionnalités qui sont déjà disponibles, mais là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont les généraliser, les étendre, c'est-à-dire que
c'est par défaut.
La protection contre le tracking amélioré, enfin, ce que j'ai traduit comme ça, en fait, je sais plus comment ils l'appellent originellement, mais est maintenant activé par défaut pour tous les utilisateurs. Puisqu'à l'heure actuelle, ils ont remarqué que c'est à peu près 20%, je crois, de leurs utilisateurs qui ont activé ces fonctionnalités. Et en fait, ils veulent que ce soit que par défaut, justement, Firefox protège tous ses utilisateurs du tracking. Alors, aussi bien d'ailleurs par cookie tiers que par empreinte, par fingerprints. C'est-à-dire que donc les fingerprints, en fait, c'est des empreintes de la configuration de vos ordinateurs qui sont faites au moment de la navigation via des petits scripts, et ça permet de vous tracer également. Alors par contre, cette partie fingerprints, elle fait partie du mode strict, donc c'est à vous de l'activer. Et puis autre truc qui est intéressant et qui maintenant est par défaut, c'est le blocage des cryptomineurs. Voilà.
Alright.
Juste pour info, un cookie tiers, c'est un cookie associé donc à un nom de domaine différent de la page que vous êtes en train de regarder. Et ça permettait du coup d'aller récupérer de l'information, par exemple un identifiant unique entre guillemets de l'utilisateur, et de passage d'un site web à l'autre, du coup de construire le chemin. Enfin, c'était une des méthodes en tout cas.
Voilà.
Donc aujourd'hui, enfin ça, Safari faisait depuis pas mal de temps maintenant. Enfin. Oui, quelques temps maintenant, et maintenant Firefox, donc il ne reste que Chrome qui aujourd'hui n'a pas ça par défaut, sauf si vous utilisez des trucs du genre les bloqueurs là, divers et variés, enfin en gros une extension pour faire ce genre de choses, ou je sais pas si c'est une option dans Chrome, mais voilà. Bon, après Chrome reste le majoritaire, donc on est encore, mais la pub c'est compliqué.
C'est très compliqué, ouais.
Alors sur la partie web aussi, on a y a des nouveautés sur le monde d'Angular. Donc Angular 8.2 vient de sortir et Angular CLI. Alors les nouveautés 8.2, bon, il y a surtout TypeScript.
Oui.
TypeScript 3.5.
C'est ça.
Et puis il y a aussi, bon, après on est passé à ZoneJS 0.10.0. Alors là, j'ai pas lu le changelog, je sais pas s'il y a...
Non, en fait, c'est surtout qu'avant c'était une librairie externe et que maintenant elle est intégrée au projet. C'est surtout ça la différence.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Et un autre truc qui est...
Et ça fait quoi ZoneJS
Ouais, alors ça c'est le sketch, pas, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. J'ai passé un moment à chercher et puis je pouvais pas y passer non plus 10 ans. Et j'ai pas réussi à vraiment trouver... En fait, j'ai trouvé des très vieux articles. Et donc je n'arrive pas à savoir précisément, parce que c'est quand même des articles qui datent de 2015, je crois que j'ai trouvé des choses comme ça, donc tu vois, on est vraiment sur quelque chose de vieux, et j'ai pas réussi à avoir plus d'infos sur justement qu'est-ce que fait exactement cette librairie qui maintenant est intégrée directement, parce que j'étais pas sûre que ce soit la même, ça me paraissait un peu trop vieux, je sais pas, donc Cédric, si tu nous écoutes, et si tu peux préciser.
Oui, c'est vrai, parce que ZoneJS, on l'a partout quand on fait de l'Angular, c'est vrai que c'est une librairie qu'on se balade partout, il y a de la configuration partout. Et puis ça s'appelle ZoneJS parce que ça parle de zone, de contexte,
c'est
d'exécution.
Ça.
Enfin pareil, j'ai pas bien
voilà,
compris.
Voilà, j'ai trouvé pas... quelque chose sur qui est lié justement à cette délimitation des contextes d'exécution, si j'ai bien compris. Et mais j'ai pas réussi à avoir beaucoup plus d'infos, donc voilà.
Ah d'accord. Enfin là, je lis juste un README, mais en gros. Ça dit une zone est un contexte d'exécution qui est persisté entre les tâches asynchrones. Donc vous pouvez penser à le thread local pour JavaScript.
Et il y a aussi parce qu'en fait c'est vrai que c'est une petite release puisque l'équipe elle est plutôt concentrée sur les derniers fixes pour Ivy, mais il y a malgré tout une petite fonctionnalité sympa, c'est que maintenant le template type checker de Ivy, il va vous indiquer le fichier source qui contient l'erreur, parce qu'avant il se contentait de dire c'est dans le fichier où j'ai compilé toutes les erreurs, et ça c'était pas très pratique. Maintenant vous pouvez voir quel est celui de vos fichiers qui contient l'erreur que le template type checker a relevé. Voilà. Et puis sur la CLI, et ben, alors il y a une nouvelle commande deploy, mais bon, finalement c'est juste un alias hein, de ng-run deploy. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez avoir des builds de prod plus rapides, parce que depuis la version 8.0, ils ont introduit ce qu'on appelle le loading différentiel, et donc on compile deux versions. On en compile une qui est à destination des navigateurs modernes pour qui est dont la cible est ES 2015, et puis on en compile une autre à la suite qui est pour les plus vieux navigateurs en ES5, et ce qui fait que les builds de prod prenaient deux fois plus de temps. Et donc là, avec cette version de la CLI, la version ES 2015 va être buildée en premier, et le bundle ensuite est, alors je sais pas bien comment le traduire en français, en anglais c'est downlived, donc la version est rabaissée en fait vers ES5, et non plus rebuildée from scratch, ce qui fait que ça va prendre moins de temps, et que d'ailleurs plus le projet est gros évidemment, et plus l'amélioration va être significative. Et puis ça c'est un petit cherry on the cake, mais la homepage des projets auto...
Une cerise sur le gâteau.
Tout à fait. La homepage des projets auto-générés a été redesignée, et elle embarque maintenant, ce que je trouve assez sympa pour les gens qui démarrent, elle embarque des liens vers des ressources pour démarrer en Angular et des commandes utiles également. Voilà.
Bon. En fait, c'est comme le Java rétro qui permet de porter des nouvelles fonctionnalités dans l'ancien, mais dans l'autre sens, en fait, visiblement. Ou un truc comme ça. En gros, ils prennent le nouveau code et ils le rétrofitent pour que ça fonctionne.
Oui.
Mais si, c'est ça. Mmh. C'est le même truc, même principe.
Allez, on termine la partie web et on passe à la partie mobile. Alors là, moi, j'y connais rien. Apparemment, il y a Android 10 qui est sorti. Vous avez suivi, vous?
Ouais, enfin, j'ai suivi, j'ai lu l'article. mais on a un article du Product Manager Android, ou un des, qui résume, alors c'est un article qui est, enfin, c'est un peu un mix entre un article pour les utilisateurs finaux un peu geeks et pour les développeurs plutôt, mais en gros c'est quand même à dire, voilà toutes les nouvelles fonctionnalités, messieurs les développeurs, vérifiez que votre application
messieurs dames.
Fonctionne bien. Messieurs dames, pardon, effectivement. Et donc, il y a le support pour les écrans qui sont pliables quand ils casseront pas trop vite. Donc ça, votre application, bah, faut qu'elle gère le fait que on passe d'un écran petit à un écran grand comme ça, hop hop. Il y a le support de la 5G pour les 5 km² dans le monde qui l'ont, où il y a notamment on peut détecter, justement il y a des API pour détecter si on est en accès rapide, si on a un cap au niveau de la consommation de bandes passantes ou de limites. Du coup il y a des API qui nous permettent d'aller plus vite ou pas sur l'application pour éviter de tuer le service de l'utilisateur. Il y a un truc assez cool, donc c'est du machine learning sur le téléphone qui fait du doublage, ça écrit le doublage sur les vidéos et audio, enfin le texte, pardon, qu'on appelle ça en...
Le sous-titre.
Le sous-titre, merci, du sous-titrage, voilà, sur les vidéos et sur l'audio, c'est-à-dire que vous pourriez avoir le sous-titrage des cascodeurs grâce au modèle de machine learning sur le téléphone. Donc dites-nous si ça marche bien ou si en fait ça marche pas encore, mais si c'est le même qu'il y a sur YouTube, c'est pas si mal hein, quand même, ça marche plutôt pas mal.
Après ça relèvera pas le niveau des blagues hein. Le machine learning ne peut pas tout faire, ça désolé.
Il peut les couper, il peut faire des bips à
peut-être,
la place.
Peut-être.
Mmh. Bip. Mmh.
Il y a ouais. Bon, après c'est un autre modèle de machine learning en fait.
C'est ça.
Et puis au lieu de dire cool, il pourrait dire chouette, tu vois, il remplacerait tous les cool par chouette.
Ça c'est pour éviter la violation de droits d'auteur, ça s'est passé autre chose. Il y a les réponses intelligentes, c'est pareil, c'est du machine learning sur l'appareil, donc historiquement Google il allait quand même chez eux pour avoir un machine learning donc plus vaste et donc qui marche mieux. Maintenant il s'oriente vers ce que fait nos amis d'Apple avec effectivement beaucoup de travail sur l'appareil en lui-même. Le mode noir, le dark theme pardon,
que tu aimes énormément Emmanuel hein.
Oui, absolument. J'essaye régulièrement.
Oui, j'essaye aussi, mais je suis assez peu convaincu aussi. C'est pas facile.
Moi, je suis dark partout. Hein. Mon IDE,
tes fringues, on sait.
Mes fringues, mes t-shirts, hein. Je suis très très dark. J'aime bien, moi. Je suis assez fan. Bon.
Et ils ont des navigations gestuelles qui permettent d'enlever la petite barre en bas, vous savez, de navigation pour revenir à la home, etc., qui ressemble en tout cas le point de départ étrangement à ce qu'il y a sur Apple aussi, là qu'on avec la petite barre qu'on flippe en passant du bas du téléphone, du bas de l'écran et en montant, ce qui permet de partir de l'application. Amélioration au niveau de la comment on dit privacy en français,
la vie privée des utilisateurs.
Voilà, au niveau de la vie privée, merci. Notamment sur la localisation, donc pareil, c'est un truc qui existait pas mal sur Apple, mais on peut limiter à la disponibilité de la localisation pour une application que quand on utilise l'application versus tout le temps dans le background, etc. Donc ça, c'est un choix qu'on peut avoir maintenant. Et puis il y a moins d'accès ou plus d'accès aux identifiants uniques du genre IMEI ou qui permettait en gros de savoir que c'était toujours le même téléphone qui revient. Voilà, donc ça c'est terminé aussi. Ils ont un nouveau mode de chiffrement du disque. Ils encouragent en gros tous les téléphones à utiliser ce chiffrement entier du disque. Et notamment, alors je me rappelle plus le nom, mais ils ont travaillé sur un moteur qui supporte les processeurs qui n'ont pas d'optimisation hardware AES. Non, pas AES, si AES, ouais. Parce que ben il y a sur ARM, il y avait beaucoup de processeurs, enfin beaucoup de téléphones qui n'avaient pas justement ces optimisations hardware, et du coup le chiffrage était vraiment lent. Donc là, ils ont fait un moteur plus léger qui permet de voilà, qu'il y a une alternative à ça. Mais s'il y a l'optimisation AES sur vos processeurs, il l'utilisera parce que c'est quand même plus rapide et moins gourmand. TLS 1.3 par défaut. Donc si vous avez encore vous pouvez monter maintenant vos serveurs vers du TLS 1.3 puisque maintenant tout le monde va pouvoir parler TLS 1.3. Amélioration de ART. Alors ART, j'espère que je dis pas de conneries, mais je crois que c'est le truc qui va compiler l'application quand vous l'installez pour que ça soit optimisé pour votre machine. Là visiblement ils vont pouvoir télécharger des profils en fait d'exécution de Google Play, qui vont permettre d'optimiser la compilation un peu plus proche de ce que fait l'application plutôt que de faire une compilation sans information. Donc c'est un petit peu un intermédiaire entre la compilation statique sans information et la compilation JIT qu'on a notamment dans la JVM. Et puis ils ont un garbage collector générationnel qui va permettre de démarrer, enfin que les applis soient pas saccadées au départ parce qu'il y a beaucoup de trucs, d'objets qui sont créés, des choses comme ça. Voilà, et du coup voilà, ils vous résument comment préparer votre application pour Android 10 et puis bénéficier de ces choses-là. Il y a un truc que je sais pas d'ailleurs, je sais pas si vous avez développé un peu en Android, c'est dans iOS, en fait, avec Objective-C, là, en gros, on peut très bien dire, tiens, si cette méthode est pas là, je l'appelle pas, mais ça se passe bien. Du coup, supporter plusieurs versions, ça paraît un peu plus faisable. Mais là, quand t'es en Java, je sais pas comment ils font pour dire, je supporte Android 8, mais je veux aussi bénéficier d'Android 10. Donc, ça m'intéresserait de savoir.
Bon, terminé pour la partie mobile. Partie data, alors il y a une nouveauté là apparemment, SQL Server est compatible avec Debezium ou plutôt l'inverse, c'est ça Emmanuel?
Ouais, alors je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais en tout cas c'est un des product managers là encore de SQL Server qui explique à quoi servent les Change Data Capture, les améliorations qu'ils ont fait récemment sur SQL Server et SQL Server Azure ou peu importe le nom qu'ils lui donnent. Et justement, voilà, la capacité à pousser les événements dans Kafka via Debezium ou via leur truc à eux là, je me rappelle plus leur nom. De nom, parce qu'ils ont un truc alternatif à Kafka si vous voulez pas gérer votre propre cluster Kafka. Voilà, donc tout le monde s'y met, tout le monde montre les avantages petit à petit, donc c'est vraiment bien de voir ces choses-là évoluer. Dans le bon sens pour moi, quand on voit les besoins de microservices de synchroniser leur data, voilà.
Ouais,
c'est
ouais.
Cool.
Bon alors, c'est qui le ou la malade des cascodeurs là, qui a mis un article de 26 pages sur un sujet qui s'appelle « Régression polynomique comme approximation et alternative à des réseaux neuronaux ».
Tu poses vraiment la question ?
C'est moi, mais là...
Et tu l'as vraiment lu ? Et tu as vraiment lu les 26 pages, Emmanuel ?
Ah bah non, moi je lis l'abstract. En fait, ça sert à rien de lire les papiers, je vais vous dire un truc. Vous lisez l'abstract, vous lisez la conclusion, et puis vous passez rapidement au milieu. Mais au milieu, on s'en fout, hein.
Oh, le mythe s'écroule. Nous, on était persuadés que tu les lisais de bout en bout.
Mais ouais, attends, on s'est dit ouais, fin.
Nous, on t'imaginait le soir devant ta cheminée avec tes petites lunettes en train de lire ça comme nous.
Avec ma petite
papa Fibzapi.
Bled, orange et jaune.
Et lit un article. Et lit un papier de 26 pages. Ok, donc tu as des trucs intéressants à dire ou c'était que pour te la péter?
Alors, c'est intéressant parce que ça challenge certaines choses. Non, mais je l'ai quand même, il y a des trucs intéressants. Donc, eux, leur argument, c'est que, en fait, quand on regarde un réseau neuronal, ça ressemble beaucoup et ils font une équivalence, je pense que c'est une équivalence faible, mais ils font une équivalence entre un réseau neuronal et juste une simple régression polynomique. Et notamment, ils expliquent que quand on monte de degré de régression polynomique, juste la régression polynomique, c'est juste dire j'ai plein de points et je trouve le polynôme qui se rapproche le plus de ces points-là, avec un degré, donc degré 1, degré 2, degré 3. Et donc 1, c'est une seule ligne, degré 2, vous avez une courbe, et ainsi de suite, une courbe plus en plus, avec de plus en plus de virages. Et donc, en gros, ils disent, c'est que plus vous avez, enfin, les layers cachés du réseau neuronal correspondent au, enfin, un petit plus ou moins au degré polynomique. Et que, en faisant cette équivalence, ils permettent aussi d'expliquer certains fonctionnements des réseaux neuronaux et pourquoi des fois, alors je me rappelle plus le détail, pourquoi il y a des fois des problèmes de non convergence des réseaux neuronaux qui partent vite en sucette, c'est des problèmes très similaires dans les régressions polynomiques. Et après ils finissent par, alors là pour le coup j'aurais dû lire mais j'ai pas lu le détail, mais en gros ils prennent un certain nombre d'exemples de corpus de tests pour les réseaux neuronaux, ils disent regardez, avec une régression polynomale on fait quasi pareil ou un peu mieux en fonction. Donc c'est, le mythe s'écroule, les réseaux neuronaux on peut les remplacer par une simple équation de polynôme. Donc c'est, voilà, on va pouvoir revenir à une activité normale et consommer moins de CPU.
J'aime bien quand tu dis une simple équation de polynôme.
Disons que c'est quand même, bon, il y a des outils, quoi, tu vois, ouais. MATLAB, tout ça, enfin, on sait faire. Hein.
Ouais, en fait, bref, ils se la pètent, quoi. Bon, allez.
Non, mais je prétends pas l'avoir lu, mais je trouvais que c'était challengeant et intéressant de se dire...
Et de sortir de Java 13, Go 1.13, machin. Non, mais t'as raison, Emmanuel. Ouais, t'as raison.
Java 26, ça sera auto-amélioré avec du machine learning.
Ça me rappelle une conf au Paris Jug, il y a de nombreuses années, un Anglais était venu nous parler de ça. Il faudra que je retrouve ça. Alors, on passe à la section outillage. Déjà, il y a une petite interview sympa de notre ami Julien Dubois sur G-Hipster et G-Hipster Conf qui a eu lieu au mois de juillet, je m'en souviens plus, puisque malheureusement je n'ai pas pu y aller, je ne sais pas si vous avez pu y aller. G-Hipster, c'est passé à la version 6 hein, maintenant depuis un petit bout de temps, et les nouveautés et la conférence avec accès G-Hipster avec plein d'infos et de trucs et astuces sur G-Hipster. Voilà, donc je vous conseille cette interview de Julien sur InfoQ France.
Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est José Pomar et Jean-Michel Doudou qui l'interviewent, donc ça donne une dimension un peu plus intéressante, que j'ai trouvé moi à l'interview.
Alors, dans la partie outillage aussi, il y a la sortie de Maven 3.6.2. C'est toujours marrant, enfin je sais pas si vous suivez les nouveautés de Maven, hein, ça fait quelques années qu'on est à la 3.6. Il se passe toujours des petits trucs, donc pour ceux qui veulent regarder la release note, ça va plus vite, hein. Voilà, donc la 3.6.2 va vachement plus vite que la 3.6.1, donc ça c'est, voilà, il faut upgrader. Il y a quand même un truc qui m'a fait marrer, et là c'est vraiment, si vous êtes au cœur de Maven, et les extensions, et les plugins, et les machins, c'est qu'ils continuent à bosser sur virer Plexus pour mettre AtInject. Ça fait des années, je crois, et c'est pas terminé, hein. Ils disent still not finished. Et en fait, on a presque envie de leur dire, on s'en fiche un peu. Enfin, tu vois, Plexus est là depuis plus de 10 ans. Laissez-le ou pas. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, voilà.
Je sais pas. En fait, c'est sur la partie Maven Core où ils ont pas terminé. Mais bon, je pense qu'une fois que t'as amorcé le mouvement, il faut c'est compliqué de laisser les deux coexister, t'es obligé de trancher quand même. Et bon.
Bah, ouais. Ils vont faire comme Python 2 et Python 3.
Il y a le, tu n'as pas précisé, il y a le nouveau support du Qualifier Release. Voilà. Et le fichier Toolchain XML qui supporte les variables d'environnement. C'est les quatre grosses nouveautés de cette release.
Et ça sert à quoi le Qualifier Release? Moi, je connais rien au build, alors.
Mais j'en sais rien parce qu'en plus c'est hyper mal fichu. C'est, j'aurais aimé qu'Arnaud soit là parce que si tu veux la note, la release note, elle te donne les liens vers les fiches Jira et les fiches Jira, t'as surtout les issues, etc. Et c'est absolument oui, pas pratique. Ouais. Et ça m'a un peu découragé, je ne vous le cache pas.
Bon, ouais. Pareil dans les zéro.
Attends, attends, juste pour info, ah. Par contre, donc nous on est utilisateur assez avancé dans Quarkus de Maven. En fait, il y a quand même plein de bugs qui corrigent. Et du coup, même si vous dites qu'il n'y a pas de nouveau truc, il y a quand même... si. Enfin, donc, upgrader, ça ne vous fera pas de mal bien normalement. Sûr, ouais. Enfin, vérifier, mais upgrader quand même.
Bon, et puis, il y, y a des nouveautés aussi côté Git, puisqu'on est passé à Git 2.23, avec quelques commandes d'expérimental. Ils font ça en fait, à chaque fois ils mettent des commandes et après soit ils les enlèvent soit ils les gardent. Donc là ça parle de git switch et de git restore en nouvelle commande. Je sais pas si vous avez fait Mimus vous avec ça ou vous avez juste lu l'article ou vous avez testé sur votre code.
Moi j'ai pas de code en ce moment.
Oh
j'ai pas testé.
T'es devenu chef de projet, oh la loose.
Pas tout à fait, pas du tout. Mais non, alors en fait, c'est quand même. Enfin, je trouve ça super sympa parce que ils sont partis du constat qu'on faisait énormément de choses avec la commande git checkout, c'est-à-dire qu'on pouvait changer de branche, on pouvait créer une nouvelle branche, on pouvait également faire des resets sur les fichiers, et donc il y avait finalement une confusion qui était amenée puisqu'on traitait de deux types de choses à la fois avec la même commande, des fichiers et des branches. Et donc là, ce qu'ils testent finalement, donc effectivement, c'est d'avoir une commande git switch qui, elle, est dédiée au changement de branche, et on a maintenant une commande git switch -c pour créer une nouvelle branche au lieu du git checkout -b, et une commande git restore qui, elle, va vraiment, qui est dédiée au fichier et qui va permettre de remettre le fichier dans un état précis. Donc, ce qu'on faisait avec notre git checkout sur un fichier, par exemple. Sauf que là, en plus, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir lui préciser, par exemple, que on veut faire un restore sur ce fichier-là, mais la version d'il y a 3 commits. Donc c'est assez intéressant. Alors ces deux commandes-là en fait qui sont en expérimental et qui effectivement pourraient changer à l'avenir, mais il y en a d'autres, il y en a pas mal d'autres qui sont arrivés aussi. Il y a notamment, j'ai trouvé assez intéressant, il y a une commande pour annuler un merge mais en conservant les modifications effectuées. Des fois quand vous faites un merge, vous avez un conflit, vous commencez à le corriger, etc. Et puis pour une raison ou pour une autre, il faut que vous arrêtiez. Là, si vous faites, au lieu de faire un abort, puisqu'en général c'est ce qu'on fait, on fait git merge moins moins abort et on quitte et ça revient à l'état initial. Là, on fait un git merge moins moins quit, ça stoppe le rebase, mais ça conserve les modifications que vous avez faites. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Il y a également une commande, si vous êtes plutôt adepte du cherry pick, pour skipper les changements qui seraient apparus au milieu d'un cherry pick. Donc pareil, en cas de conflit, en fait, si vous êtes en train de faire un cherry pick de plusieurs commits, vous allez faire un git cherry pick moins moins skip. Et une petite commande aussi qui peut être sympa, alors... C'est pas tellement une commande, je pense, que vous allez utiliser dans votre vie de tous les jours de développeur, mais si vous avez des scripts qui listent, par exemple, toutes les branches du repo, maintenant, il y a une commande git for each ref, et non seulement elle va vous donner toutes les branches du repo, mais elle va aussi vous donner les commits sur lesquels elle pointe. Donc, c'est assez sympathique. Et puis, il y en a d'autres, j'ai pas tout listé, ça aurait été un petit peu long, mais allez voir l'article, il est assez sympa.
We will. Alors, on quitte la partie tech, la partie outillage, pour ce super article. Je trouve qu'il est bien fait, il est bien illustré sur les bonnes pratiques du télétravail. Je pense qu'il y a pas mal d'auditrices et d'auditeurs qui bossent à la maison. Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que bosser seul, c'est facile? Donc l'article là vous donne plein de petites astuces. Alors il y a pas mal de statistiques aussi. Alors ils disent pas où est-ce qu'ils les ont, les statistiques. Enfin, j'ai pas vu de référence. Mais a priori, les gens aiment bien bosser en remote. Alors c'est plutôt lié à la tech, hein, quand même. Je sais pas si d'autres métiers aiment autant, mais nous, on a plutôt... les pourcentages de satisfaction sont un peu élevés. Et donc, il y a plein de petites pratiques comme ça. Voilà, faut se faire un rythme, faut pas être seul, faut voir des êtres humains de temps en temps quand même, faut promener le chien, donc acheter un chien, se caler aussi sur des horaires, pas commencer un jour à midi, l'autre jour à 7h du mat, des choses comme ça. Toi Emmanuel, tiens, toi qui bosses en remote depuis quelques décennies, est-ce que...
Ben moi, je suis à moitié, c'est dommage, Arnaud est pas là, mais c'était pour réagir à lui. Ouais, moi, alors, il y a tout ne m'a pas parlé, notamment, par exemple, les horaires fixes, etc. Je pense que c'est peut-être bien au début pour comprendre et se caler. Il y a un point super important qui est la séparation de la partie travail, de la partie pas travail. Ça aide pas mal, donc physiquement, hein. Un petit endroit ou une pièce idéalement. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est mettez la vidéo pour montrer aux gens que vous êtes là, et parce que psychologiquement, parmi les communications non verbales, toutes les parties communication non verbales, vous amenez que vous êtes là, vous êtes présent, vous écoutez, vous n'êtes pas en train de lire vos emails. Enfin, ça va se voir autant que dans une réunion. Faites comme si vous étiez dans une réunion physique, et donc si vous êtes là, vous curez les dents, ça se verra à la vidéo, comme ça se verrait dans la réunion physique. Et donc voilà. Et effectivement, faites des breaks, parce qu'en fait, au bureau, on glande rien. En fait, il y a bien un quart, la moitié du temps qui est passé. Alors, je me balade, je vais chercher de l'eau, je vais parler à trucs.
J'ai une vie sociale.
Voilà. Donc là, faites-le avec un chien. Allez au café. Mais faites des breaks explicites, parce que vous en aurez pas naturellement.
Alors, sauf... c'est vrai que moi, il y a une petite astuce que j'ai mis en place, parce que moi, je bosse de plus en plus en remote là depuis un an et demi à peu près. Et il y a une petite astuce que j'ai mis en place, c'est que j'ai plus de machine à café. Donc, j'ai la chance de vivre à Paris intramuros, donc il y a des bars partout. Et donc, je me force à sortir. C'est pas loin, hein, c'est 200 mètres. Mais 2-3 fois par jour, je me force à sortir, je vais au PMU du coin, je lis le journal, je papote avec le mec qui picole à côté, et je fais ça depuis longtemps maintenant, j'ai plus de machine à café, et je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai beau bosser seul, alors une fois de plus, j'habite Paris, je sais que je discutais avec d'autres potes, bosser dans des petites bleds, c'est pas toujours facile, parce que là on voit moins d'êtres humains. Et c'est vrai que juste sortir 2-3 fois par jour et aller à mon café qui est à 200 mètres, j'ai vu 4000 personnes. Donc c'est vrai que ça, c'est une petite astuce que je me suis créée et je vous la conseille. Jetez votre machine à café. Voilà.
Un autre point, moi je suis convaincu, c'est prioriser la documentation et les communications claires. Donc écrivez le compte rendu en live avec un Google Doc ou ce équivalent de ce que vous avez. Préférez les outils qui persistent l'information. Donc Slack, c'est de la daube, parce que
je l'ai toujours dit, punaise, suivre, je l'ai toujours dit.
Et ben il aura pas l'info. Donc
on sait, tu le lis pas.
Mettez ça, bah oui, ouais. Je
mettez,
sais. Ouais.
Mettez les infos sur Jira ou sur votre wiki ou sur dans un Google Doc, parce que elle est retrouvable et elle peut être rattrapée au rythme de la personne, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible. Voilà, Slack c'est bien pour faire le papotage ou une info en direct avec quelqu'un, mais n'estimez pas que les gens ont eu l'info ou que tout le monde va avoir l'info.
Oui, tout à fait. Bon, voilà, on passe à la suite.
Ouais.
Oui. Alors, dans la partie sécurité, on nous annonce la mort des langages memory unsafe.
Ouais. Alors un langage memory unsafe, c'est un truc où justement on a des buffers overflow, voilà, on va aller lire à des endroits de la mémoire auxquels on n'aurait pas dû. Ça veut pas dire garbage collecté, ça veut dire que ben la mémoire elle est pas, on vous file pas des 1 et des 0 et vous faites ce que vous voulez avec. Et en gros, l'article il prend l'angle du fuzzing, qui est une technique pour découvrir de manière brutasse mais plutôt effective les problèmes justement autour de ça, puisque on injecte on dit « Ah, vous acceptez les chaînes de caractères ? Ok, ben, je t'injecte toutes les chaînes de caractères possibles et imaginables, 1 million de caractères, 0 caractères, un truc avec des tildes, avec du Lescape SQL, etc. etc. » Et on trouve beaucoup d'erreurs là-dessus. Ça mentionne notamment que l'équipe de sécurité Microsoft encourage les équipes Microsoft à utiliser Rust pour les nouveaux morceaux. Parce que Rust, de mémoire, est pas garbage collecté, mais par contre, il est memory safe. Voilà, donc en gros, il dit... ouais, il y a encore plein de codes en C, en C++, enfin tous ces langages unsafe, mais ce qu'on voit en termes de maintenance et de complexité de gestion de sécurité, les langages safe maintenant vont devenir vraiment vraiment nécessaires et ils recommandent notamment de partir sur vos nouveaux morceaux de code, partez sur un langage safe et puis et gardez les autres, évidemment réécrivez pas forcément tout. Cela dit, voilà, le kernel Linux, il est en C et ça changera probablement pas. Voilà, donc il y a des différences là-dessus. Voilà, petit article intéressant.
Ok. Bon, on entame la partie loi, société et organisation. Ça commence mal, on a 3 articles pour vous, ça commence mal, puisque là, on vous dit... l'open source, c'est terrible. C'est pas que pour les gentils, c'est aussi pour les méchants. Donc cet article de Tech Against Terrorism explique un cas particulier de quelques mouvements d'extrême droite, quelques mouvements terrorisme, qui prennent du code d'open source et qui le forquent. Donc ils donnent l'exemple d'un réseau social que je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle...
Oui, moi non plus, je pense que c'est un réseau anglo-saxon.
Ouais, c'est Mastodon, dont j'étais en train de voir.
On en avait parlé.
Ah oui.
Mastodon.
Non, mais laisse tomber, tu sais bien qu'Antonio n'écoute pas les épisodes.
si, je l'ai écouté... Et vous connaissiez, vous, Mastodon? Mais je suis nul.
C'est un Twitter décentralisé.
Bah oui.
En fait. Ouais.
Je pensais que tu parlais de Gab en disant que
non, c'est justement Gab qui a forqué Mastodon.
Voilà. Donc oui, on avait fait, quand Mastodon est sorti, on avait fait, c'est un épisode où je crois qu'on était tous les deux d'ailleurs, Emmanuel et moi, et on avait présenté l'outil.
Ah bah oui, mais c'est pour ça, vous nous invitez pas.
Et donc le problème là, c'est que donc c'est un outil qui est open source, c'est un réseau social qui est assez proche de Twitter en termes de concept, on est plutôt sur des messages courts, etc. Mais la spécificité vraiment de Mastodon, c'est de pouvoir d'être décentralisé. Donc chacun peut créer son instance Mastodon. Par exemple, je crois que Emmanuel et moi, on est sur l'instance de la Quadrature, mais il y a d'autres instances qui existent. Donc vous rejoignez celle qui philosophiquement vous parle.
M'envoyez pas
ouais,
trop
moi
de
aussi
messages.
C'est un peu ça, mais vous ça vous permet en fait de choisir celui qui justement partage vos valeurs. Et le problème de ça, c'est que donc Gab, qui est alors je suis pas trop su ce que c'est exactement, ça a l'air d'être une plateforme de médias d'extrême droite à la base.
C'est ce qu'ils disent, ouais.
Ils ont forqué le code source de Mastodon en juillet contre l'avis de la communauté des devs de Mastodon, bien sûr, pour faire tourner sa propre instance décentralisée du réseau. Et le problème avec ça, c'est que ça la rend quasi impossible à faire tomber, parce qu'une instance décentralisée, vous n'allez pas pouvoir l'éteindre, évidemment, comme fermer un compte Twitter d'extrême droite. Et alors... Tech Against Terrorism, j'ai cherché un petit peu ce que c'était. En fait, c'est une initiative qui a été lancée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et une association qui s'appelle ICT for Peace Foundation, un truc comme ça. Donc, c'est une initiative dont le rôle est de questionner justement le secteur privé dans la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins terroristes. Et ils avaient fait le constat que déjà auparavant, l'État islamique avait cherché à faire la même utilisation de Mastodon. Donc là, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une extension des débats sur le terrorisme et sur la violence extrémiste à l'utilisation des logiciels open source, puisqu'effectivement, on a ce problème que, comme il n'y a pas de restriction sur l'utilisation, ces types de mouvements peuvent tout à fait s'en servir, et du web décentralisé.
Oui, pour info, Mastodon, là, je regardais, c'est une GPL V3.
Voilà.
Mais ils proposent quoi exactement là, de mettre une clause dans la...
Alors, ils ne proposent pas en fait eux, c'est pas leur rôle, eux, ce qu'ils demandent, et je pense que, notamment, c'est en retour au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., mais c'est que tous les débats qui vont porter sur le terrorisme et sur les violences extrémistes intègrent maintenant cette notion comment on gère, en plus, ils insistent bien, c'est ça qui est intéressant, comment est-ce qu'on conserve la philosophie de l'open source, qui est essentielle et qui est extrêmement positive et qui a un but noble, tout en préservant justement le reste de la population de l'émergence de réseaux terroristes et de réseaux d'extrême droite sur lesquels on n'aura pas du tout accès, parce qu'ils seront sur des instances décentralisées.
Ouais, cruel dilemme quand même, hein. Pas facile, j'imagine, dur, ouais. Le développeur qui développe open source sur son temps, Mastodon, il voit que le code est utilisé sur ce genre de groupe, ça va pas être facile quand même.
C'est l'éternel dilemme que l'on a, nous, dans la tech, de dire on développe des choses dans un but, et à un moment, la technologie est utilisée à une toute autre fin, qui n'est pas celle que nous, on avait en tête. Et
ouais, mais ça,
c'est vrai que ça, je ne sais pas trop comment...
Là, c'est extrême, mais je veux dire, moi, je l'ai toujours eu en tête derrière, tu vois, si tu veux pas que ton truc il soit... utilisé par qui veut, tu mets pas en open source, quoi.
Est-ce que Hibernate a déjà tué des gens?
Je sais pas, mais possible, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de cause qui dit que tu peux pas mettre Hibernate dans un missile. Bon, là, ça a probablement un peu de sens, mais oui, il y a des armées qui utilisent les stacks qu'on a, nous, tu vois.
Putain, si le mec, il faut qu'il fasse une requête SQL pour tirer.
Oui, mais non, mais le back-end, tu vois, j'en sais rien, moi.
Bon, et on continue dans ce monde-là, la société, les organisations, puisque Facebook, une base de données Facebook contenant des numéros, se retrouve en ligne. Bah oui, même les meilleurs se font hacker.
Oui, enfin là, le serveur qui hébergeait les bases de données en question, il était juste pas sécurisé. Hein,
trop fort, les gars, trop fort.
Je sais pas si on peut vraiment parler de hack, là, tu vois. Et le gros problème, c'est que il y avait 419 millions d'enregistrements dans cette base. 133 millions de profils US, 18 millions de profils UK, 50 millions de profils vietnamiens, etc. Alors, la plupart des enregistrements contiennent juste un ID, l'ID Facebook de l'utilisateur et son numéro de téléphone. Ce que dit Facebook, c'est que ce sont des numéros qui ont plus d'un an parce que ils ont désactivé entre-temps les fonctionnalités qui permettaient de justement de rechercher un utilisateur par son numéro de téléphone, les choses comme ça. Mais il y a quand même d'autres enregistrements qui contiennent le nom, le genre, la localisation, etc. Et puis, en plus, bon, je trouve l'argument de dire ça date de plus d'un an un petit peu bancal, puisque de plus en plus, on change d'opérateur sans changer de numéro de téléphone. Donc, voilà. Et le problème derrière ça, c'est que ça peut exposer les utilisateurs concernés aux attaques de type SIM swapping, ce qui s'est d'ailleurs récemment produit avec le fondateur de Twitter. C'est-à-dire qu'il y avait une fonctionnalité sur Twitter pour envoyer des tweets par SMS, et en fait le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'authentification sur cette partie, parce que ça aurait été trop compliqué à mettre en place. Ça, c'est justement pensé pour les utilisateurs du réseau qui n'ont pas d'accès données, en fait, pas d'accès data dans leur forfait. Et le SIM swapping, ça consiste à appeler quand vous avez le numéro de téléphone d'une personne, et il suffit d'avoir quelques informations, donc ce qui se retrouve assez facilement, pour vous faire passer pour cette personne auprès d'un opérateur téléphonique, et vous pouvez rerouter sa ligne sur une SIM donnée. De dire, mais là j'en ai une autre, donc j'attends pas que vous me renvoyez une carte
SIM,
utiliser celle-ci, etc. Voilà. Et donc ça, c'est arrivé au fondateur de Twitter il y a pas très longtemps, et ce qui fait qu'ils ont coupé la fonctionnalité dans la foulée. Et là, c'est ce que risquent en fait les utilisateurs Facebook dont les données ont été divulguées. Surtout qu'on ne sait pas à l'heure actuelle quand est-ce que ça a été hacké, combien de fois ça a été partagé, machin. On ne sait pas trop en fait pour le moment.
Bon, et puis toujours Facebook. Enfin, faites comme moi, pas de compte Facebook. Mais si c'est trop tard, on parle de plus en plus de portabilité des données. C'est-à-dire que vous êtes sur Facebook et vous avez envie de dire, je clôture mon compte. Par contre, je prends toutes mes données et je vais les mettre ailleurs. Vous imaginez bien que déjà techniquement c'est pas super facile de dire mes données Facebook, je vais les mettre sur Google Plus ou des trucs comme ça. Mais en plus Facebook,
surtout Google Plus est mort.
Quoi?
Surtout, c'est, on te fait ta petite update réseaux mais, sociaux aujourd'hui, Antonio. Sociaux, je vois que tu as suivi.
Je n'utilise pas, moi. J'utilise que Twitter. Voilà.
Bon, bah, sache-le, Google Plus est mort.
Je suis triste voilà. Parce que je l'avais super utilisé à l'époque. Bref. Donc, il y a un article sur Le Monde, donc, lisible par le commun des mortels, qui vous explique, bah, pourquoi Facebook est pas chaud patate pour la portabilité des données. Alors, c'est vrai que techniquement, on imagine bien de l'interopérabilité entre tous ces réseaux-là. Ça doit pas être facile. Donc, techniquement, oui, d'accord, c'est peut-être pas facile. Mais ils mettent pas du leur, hein. Voilà, ils ont pas vraiment envie de dire vous prenez les données et vous fermez un compte et vous allez voir ailleurs.
Oui, mais alors en fait c'est, je l'ai trouvé quand même intéressante la position de Facebook et alors là je sais que
Audrey,
tout le monde va tomber
ouais,
de sa chaise parce que
là,
je suis réputée.
Oh
voilà. Je suis réputée pour mon amour de Facebook. Non, alors voilà, ce qui se passe, c'est que la portabilité des données, c'est quelque chose qui est déjà rendu obligatoire par le RGPD en Europe et par la loi de protection des consommateurs aux États-Unis, mais qui ne concerne que l'État de Californie. Donc, à l'heure actuelle, Facebook vous permet de télécharger vos données, sauf qu'elles sont très peu pratiques à exploiter et qu'effectivement, elles vous permettent pas de simplement transférer vos réseaux vers un autre réseau social, justement. Alors, il y a plusieurs associations, et en France notamment c'est la Quadrature du Net, qui réclament non plus une simple portabilité des données, mais une interopérabilité des données, pour justement permettre de faire ce transfert d'un réseau à un autre. Et ça a notamment été préconisé dans un rapport sur la politique de la concurrence à l'ère numérique qui a été rédigé en mars par des experts de la Commission européenne, qui envisagent potentiellement à un moment de dire « ça va être régulé par la loi, et il y aura une obligation de fait ». Et Facebook, en fait, a une position... alors, effectivement, voilà, ils disent « Oui, mais nous, on joue le jeu, puisque vous pouvez déjà télécharger vos données, etc. » Et ils se disent pas fermés au concept, mais ils demandent plus de lignes directrices dans la manière de le faire. Et ils soulèvent des questions qui sont pas complètement intéressantes, je trouve. Par exemple, ils estiment que exporter la liste de ses amis vers un autre service, ça peut poser un problème de respect de la vie privée, parce que qu'est-ce qui se passe si les personnes concernées ne sont pas d'accord ? Et typiquement, moi, si mes amis prenaient mes coordonnées pour les mettre dans Facebook... Eh ben, j'aurais plus d'amis. Ça se passerait très très mal.
C'est vrai.
Et donc, le texte s'interroge sur la nécessité de demander une forme de permission aux contacts concernés.
Mais bon, ils demandent pas la permission quand tu dis, tiens, je vais sur WhatsApp, merci de me contacter avec tous les gens qui ont mon téléphone.
Oui.
En fait, c'est, enfin, ils abusent déjà ce trou.
Oui, ouais, ouais.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ils disent aussi, si vous transférez des photos dans lesquelles certains de vos amis apparaissent et sont tagués et donc identifiables, etc. Et puis, qui est responsable là, par contre, c'est le moment où ça devient cocasse, puisqu'ils disent, qui est responsable en cas d'usage problématique par un service concurrent des données transférées? C'est-à-dire, par exemple, ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica.
Est-ce que c'est l'émetteur? Est-ce que c'est le récepteur?
Voilà, bon. Donc forcément, la Quadrature du Net, et je peux pas ne pas les rejoindre là-dessus, est pas convaincue et trouve ça assez ironique de voir Facebook donner des leçons sur la vie privée, mais je trouve qu'il y a quand même effectivement des questions qui sont posées, mais qui seront peut-être tranchées dans un avenir proche, si on continue dans la direction, puisque même aux États-Unis, ils sont en train de se poser beaucoup de questions sur la régulation des réseaux sociaux, etc., et justement de l'usage qui est fait de nos données. Donc, je trouvais quand même que les questions étaient intéressantes. C'était pas tout à fait stupide que ça de les mettre dans un livre blanc, de les poser sur la table. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours cocasse de voir Facebook se poser en défenseur de la vie privée, même si en fait ils vont plus avoir le choix. Ils ont tellement merdé par les temps passés que là, ils vont être obligés de se transformer en chevalier blanc, comme Apple a été obligé de dire ah non, mais nous c'est pas qu'on est fermé, c'est qu'on protège nos utilisateurs, quoi.
Tout un avenir à créer. Il y a des tas de choses à faire quand même dans ce monde-là. Moi, je trouve ça passionnant. Bref. Bon, messieurs, dames, on va terminer sur les conférences à venir. Déjà, il y en a une dans quelques jours puisqu'Emmanuel y va. C'est Feu Java One, qui s'appelle maintenant Code One à San Francisco. Emmanuel, j'espère que tu nous feras un chouette feedback. Et puis sinon, plus proche de nous, il y a DevFest à Toulouse début octobre. Il y a Neo4j Online Developer Expo and Summit le 10 octobre. Kotlin Everywhere Paris, donc c'est Everywhere, mais à Paris, le 19 octobre. DevFest Nantes, le 21 et le 22 octobre, en concurrence directe avec Voxt Microservices, du 21 au 23 à Paris. Scala IO, du 29 au 31 octobre à Lyon. Devox Belgique. Je n'y serai pas cette année. Ah là là, c'est la conf du développeur que moi j'aime bien, du 4 au 8 novembre à Anvers. Vous y serez, vous ?
Ouais,
moi j'y serai, ouais. Vu que tu faisais une keynote, Audrey. C'est ce qu'on m'a dit.
Oui, tout à fait.
BDX.io, c'est BDX, hein, donc c'est à Bordeaux, le 15 novembre. Et puis DevOps D-Days, le 13-14 novembre. Codeur en scène, le 21 novembre. Et le Snowcamp, punaise, on a déjà les dates du Snowcamp, du 22 au 25 janvier.
Et le CFP est ouvert.
Et le CFP est ouvert, mais ça en fait des conférences quand même. Voilà, donc pour ceux qui font du remote, qui habitent des petits villages et qui ne croisent jamais d'êtres humains, et ben allez à toutes ces conférences-là. Vous allez trouver des geeks et des geekettes. Et voilà, c'est plutôt sympa pour écouter des confs, mais surtout voir des êtres humains. Enfin, moi, c'est ma partie préférée. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie conférence ?
Bah non, on est bien.
Bah on est bien là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se boire un café ou on arrête là le podcast ?
Bah on va aller travailler. merci à tous de nous avoir suivis et puis à la prochaine fois. Alors on est un petit peu en crise d'interview. On fait le maximum en fonction du temps qu'on a. On est désolé que ça qu'il y ait un petit peu un trou dans la raquette là récemment, mais on n'a pas abandonné.
C'était
le concept.
Pas facile de les planifier sur l'été. Oui. Les gens n'étaient pas là. Donc, on a plein de choses pour vous, elles arrivent, mais voilà, on n'a pas réussi à les faire sur l'été.
Elles sont perdues.
Et si vous avez des idées, eh ben contactez-nous sur Twitter, le seul réseau social.
Ah oui, des idées, des envies.
Utilisé par les cascodeurs.
Ouais.
C'est vrai qu'on n'a pas de page Facebook.
Ah non. Hein.
Non.
On fait pas ça. Hein.
Bon, eh bien,
allez,
au revoir
à
tous et à toutes.
Salut.
Ciao, bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.